Bonsoir tout le monde, merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Ça fait plaisir. C'est la première fois que je donne donc, des communications à l'Université Populaire. Et je vais vous parler d'un sujet un petit peu spécial, puisque je suis, on va dire, un musicien qui pratique la sociologie et non pas un sociologue qui fait de la musique. Donc, mon intervention risque de dépasser un peu une heure. Je vais essayer d'aller jusqu'à une heure, d'aller jusqu'à, de ne pas dépasser 1h10, 1h15, pour les questions. Et j'essaierai d'être bref aussi. Et puis pour les échanges aussi, n'hésitez pas, c'est ça aussi le but de l'Université Populaire. On va essayer d'établir un dialogue ensemble, un dialogue déjà que j'établis avec moi-même. Puisque, comme je vous le disais à l'instant, je suis effectivement musicien, pratiquant, praticien de la sociologie. Alors, la sociologie, laquelle ? Il faut qu'elle soit pratique, il faut qu'elle soit utilisable pour un musicien. En fait, si je vous parle plus d'artiste que de musicien, eh bien, la sociologie, elle va me servir d'outil ou d'instrument de pensée, d'instrument de connaissance, pour mieux contrôler le rapport que j'ai avec mon objet de production, c'est-à-dire ma création. C'est-à-dire comment je peux placer une création esthétique dans une société avec des goûts, comme on dit souvent, comme dit Descartes, des goûts à la fois aimables et tyranniques. Aimable, eh bien, quand on aime, tyrannique, quand on n'aime pas. Voilà. Donc ces histoires de goûts sont très importantes. On dit que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Eh bien, je vous propose de d'en discuter avec vous. Un titre un petit peu... j'adore la fantaisie. Alors la fantaisie au même titre que Galilée, c'est-à-dire Galilée nous... Alors bon, il n'a pas trouvé une vie très très marrante, mais il a réussi quand même à avoir certaines formes de fantaisie, et notamment de dire que si on ne peut arriver tout droit pour trouver une chose, 1000 autres voies peuvent être possibles. Eh bien, c'est cette fantaisie, cette autodérision qu'il pratiquait aussi, ce n'est pas le seul, parmi les talents, j'ai décidé aussi d'en faire un principe de vie, c'est-à-dire rien de mieux, comme dirait Bachelard, que l'autodérision pour développer une connaissance. Alors, la musique, elle exerce sur nous, comme je vous le disais à l'instant, les pouvoirs aimables et tyranniques de la passion. C'est par une vibration que l'âme dévoile, malgré elle, un corps physique, une chose corporelle. Quand nous aimons quelque chose, nous vibrons. Si nous vibrons, ça veut dire que c'est un phénomène physique. Donc si c'est un phénomène physique, a priori, nous devrions pouvoir l'étudier. Eh bien, l'âme dévoile, quand je dis malgré elle, un corps physique, une chose corporelle. Mais l'émotion est parfois arrogante. C'est-à-dire qu'elle supporte difficilement que le goût lui impose une sorte d'enveloppe charnelle, sous la forme de pratiques et de propriétés. Ce sont les goûts. Les goûts sont des pratiques, j'aime ceci, j'aime cela. Des propriétés, je possède ceci, je possède cela, je possède des vices, je possède des meubles, j'ai un style que j'aime bien dans mon appartement, je vais acheter tel meuble, voilà, ce sont les goûts. Ce sont des propriétés. Eh bien, l'émotion, elle supporte difficilement que ce goût prenne une enveloppe charnelle qu'on puisse étudier. Alors, bien sûr, je joue avec les mots, avec le corps et l'âme, vous l'avez compris. Donc, c'est un peu un sacrilège. En même temps, c'est un sacrilège qui est une habitude chez la sociologie, parce qu'on pourrait dire un petit peu comme que c'est la dernière science révélée. Un peu comme l'islam, il est arrivé en dernier, et quand on arrive en dernier, on est un petit peu arrogant, on est jeune, quand on arrive en dernier, quand je suis le dernier arrivé, on passe pas en général par la grande porte de la philosophie, de la poésie. Donc la sociologie, elle passe un peu par la petite porte. La petite porte qui consiste à rentrer dans les cuisines des choses. Rentrer dans les cuisines, c'est de suite avoir affaire à un fourneau, à une manière de fabriquer les choses. C'est aussi être capable, quand on arrive dans les cuisines, de rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait pas si on rentrait par la grande porte. Parce que quand on rentre par la grande porte avec le tapis rouge, c'est sûr qu'on ne va pas rencontrer le domestique ou le cuisinier. Donc l'intérêt de rentrer par les petites portes, c'est aussi avoir un intérêt d'observer de l'intérieur, véritablement de l'intérieur, de partir des petites choses pour arriver aux grandes choses. Heureusement, quand on veut étudier le goût, quand on veut étudier l'émotion, il faut essayer de se tourner vers d'autres sociétés que les nôtres, et particulièrement les sociétés de tradition orale. Parce que dans les sociétés de tradition orale, nous n'avons pas le même corps. Alors le même corps, bien évidemment, le même corps socialisé, sinon la notion de race, hein, le racisme anthropologique du 19e siècle, est dépassé, en tout cas il est terminé depuis les années 70. Donc là, on découvre avec ces sociétés de tradition orale, y compris rurales, y compris populaires, c'est-à-dire en France, on n'est pas obligé de faire de l'ethnologie des sociétés exotiques. On peut faire aussi l'ethnologie de l'agriculteur, l'ethnologie de la campagne. Eh bien, on se rend compte que les choses de l'âme sont en fait les choses du corps, particulièrement dans la danse, dans la manière de danser. Le port de tête n'est pas le même, on ne va pas forcément garder une position comme ça, où on va se tenir, d'où l'importance de la posture, comme par exemple dans les concerts de musique classique, on est tenu de ne pas tousser, on est tenu de faire ça. Alors que dans les fêtes populaires, il y a une espèce de liesse, c'est pas le même corps, on n'a pas le même corps. Dans le sens, le corps socialisé, le corps social. C'est l'exemple de la danse. La danse dans les traditions orales, elle se joue sans partition et sans théorisation. C'est un savoir-faire digne des grandes époques émériques, c'est-à-dire la tradition orale. Plus proche de nous, notre société, notre propre société, sous couvert d'innovation libérale, valorise par exemple la figure du créateur. Le créateur est anonyme pour Lévi-Strauss avec le structuralisme. Le créateur est anonyme, il fait partie d'une tribu, d'un groupe. En revanche, en Occident, la figure du créateur est personnifiée, personnalisée. Eh bien, notre société, sous couvert d'innovation libérale, valorise, échange l'image de l'artiste. Est-ce que l'artiste peut encore signer, par exemple, des contrats de désintéressement héroïque, comme l'art pour l'art avec Flaubert, et d'une action critique? Ou est-ce que l'artiste se contente d'une convention de contestation médiatique pour servir des causes, les fameuses causes que l'artiste va servir? Je vais m'engager contre le sida, je vais m'engager pour la paix dans le monde, je vais m'engager, etc. Ici, je vais vous proposer un dialogue que je vais essayer de rendre constant, comme un fil bien tendu, entre l'artiste et le sociologue pour essayer de libérer. Parce que le sociologue libère. Pour libérer, avec imagination et fantaisie, l'acte de création artistique et surtout, quelque chose de très important, les chimères chez l'artiste, les chimères narcissiques. Parce que l'artiste est très narcissique. Nous sommes dans une société un petit peu, on dirait, individualiste. Bon, proposant le terme narcissique, n'ayons pas peur des mots, un peu narcissique, eh bien, l'artiste, par sa position sur scène, par son aura, par sa présence, les musiques qu'il propose, la peinture qu'il propose, il a des tentations. Voilà. Ces tentations-là, il faut essayer de réfléchir dessus. Et c'est vrai que moi, en tant qu'artiste, j'essaie toujours de contrôler ce rapport au narcissique. Et le rapport au narcissique pourrait être totalement totalitaire, c'est-à-dire imposer des points de vue ou identifier ce qui est encore peut-être plus intéressant, le narcissisme des autres. Très important aussi. Mais le dialogue entre l'artiste et le sociologue, il n'est pas acquis une fois pour toutes. On dit que l'art et la science ne font pas bon ménage. Pourquoi? Et si c'est une vérité qui est intégrée massivement, qui est incorporée dans nos pensées, est-ce que cela a toujours été? Eh bien, pas tout à fait. Parce qu'on remarque, je vais en parler plus tard qu'au Moyen-Âge, arithmétique égale musique. Mathématique égale musique. Tiens, mathématiques, musique, artiste, philosophe, et en même temps scientifique. Jusqu'au XVIIIe siècle, c'est ça. Jusqu'au XVIIIe siècle, mathématiques et musique marchent ensemble. Parce qu'il faut chercher des formes, il faut chercher des mouvements, et il faut imprimer à notre âme donc à notre sensation, il faut imprimer un mouvement, il faut imprimer comment on pourrait appeler ça, un mouvement, une douceur et, je l'ai dit tout à l'heure, une vibration. Alors on ne se tromperait pas beaucoup en disant que la science explique, elle comprend, et que là, mais plutôt dans un état d'extase, mais donc hors de soi, ravit l'âme, exacerbe les sentiments, permet d'atteindre l'être parfait, l'infini, et pour certains, Marvel. Si c'est si difficile de toucher à la musique, et donc aux musiciens, c'est parce que, et à ceux qui ont des goûts musicaux, c'est parce que lorsqu'on y touche, les goûts sont touchés. Les goûts, c'est le moi au plus profond. C'est le soi aussi. L'âme de la musique est la musique de l'âme. C'est la profondeur, l'intériorité. On parle aussi de musique intérieure. Les témoignages et les discours ou les opinions sur la musique, sur les goûts musicaux, ne manquent pas concernant le vécu qu'on peut avoir sur l'art. Alors ces qualificatifs, ces descriptions d'un état ineffable, vous voyez, j'emploie beaucoup de termes quand même qu'on utilise particulièrement sur France Culture et France Musique. Indescriptible, ça remplit un peu les revues littéraires et artistiques qui parlent d'art, de musique. C'est un état ineffable. Les émissions radiophoniques ou le ton de confidence personnelle, inspiré et de rigueur. J'ai choisi cette œuvre parce que je la trouve magnifique. C'est l'argument. Et ne croyez pas que les spécialistes ou les professionnels de la musique se passeront de ces termes. Non, bien au contraire. Quelque part, ils ont tous en commun, musiciens, publics, mais moi aussi, spécialistes, et peut-être vous aussi, de croire que la faculté est naturelle, qu'il y a un don, qu'il y a un talent, qu'il y a une sorte de potentiel inné qui permet de créer, d'inventer. Et je reprends la question de Pierre Bourdieu, mais qui a créé les créateurs? Donc c'est pas la poule et l'œuf, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est s'intéresser à la genèse des choses, les origines des choses. Il y a aussi la création du génie, et le caractère sacré du génie, fasciné, halluciné, charismatique par rapport à son œuvre. Tout est fondé culturellement en nature. Une petite parenthèse. Qu'est-ce qui fonde le sexe dans la société? Eh bien, ce n'est pas le biologisme, ce n'est pas la biologie. Ce qui fonde en nature le sexe, c'est la culture. C'est-à-dire, si j'ai envie d'élever mon enfant comme un garçon, il y aura de fortes chances qu'il ait les principes ou les caractéristiques d'un garçon. Si j'élève mon enfant comme une fille, c'est là où vous me dire, mais ce n'est pas ça qu'on fait, bien évidemment. En tout cas, qu'est-ce qui permet à une fille d'être fille, ou de devenir femme, ou un homme, ou un jeune garçon, de devenir homme? Eh bien, ce sont les premières expériences de l'enfance, c'est bien évidemment l'éducation. Donc, on est plein de biologistes, encore, je ne fais pas trop confiance aux biologistes, ça va, globalement, aux biologistes, bien évidemment, sinon je suis prêt toujours à les écouter, mais aux biologistes, puisque la biologie est assez mal barrée, on va dire avec la notion justement d'anthropologie ou la notion de race au XIXe siècle qui était justifiée par la biologie dans l'anthropologie. Voici des exemples tirés d'ouvrages très sérieux qui parlent du rapport à la musique. Romain Rolland, qui est un écrivain prix Nobel 1915. Si la musique nous est si chère, c'est qu'elle est la parole la plus profonde de l'âme. Salle-Nage, qui est une auteure française, collaboratrice au Monde, dans Le Don des Morts en 1991, l'expérience littéraire est la plus haute que l'homme puisse se faire avec celle de l'amour. Guillaume Moz, qui est un musicien dans son Histoire de la musique, très sérieuse, en 1949, la musique a éveillé la matière à la vie secrète des vibrations qui lui donnent une âme. De tout ce qu'elle passe, de tout ce qu'elle heurte, de tout ce qu'elle effleure, elle est arrivée à tirer une étincelle de beauté. Jean et Brigitte Massin, dans leur Histoire de la musique occidentale, chez Payard. La musique est un besoin du cœur et de l'imagination. La musique a le pouvoir de nous délier de toutes les entraves extérieures et de nous lier par le fond de nous-mêmes à tout le devenir de l'univers. Le besoin d'explorer les océans de la musique et de mieux les connaître pour y trouver plus de joie encore, mes frères.
Une des merveilles de la musique, c'est qu'elle est le puissant moyen de communion au sein de laquelle chacun demeure, bien heureusement, et je le souligne, solitaire. Pourquoi bien heureusement solitaire? On n'est pas assez seul quand même. Et unique, voilà, bien heureusement solitaire et unique dans ce qu'il ressent. C'est sûr que là, la sociologie va faire figure de vilain petit garçon, ou de vilain petit fille aussi. Mais en général, c'est les garnements, on parle des garçons, bien, encore un principe social. C'est les garçons surtout qui font des bêtises. Bien. Et bien ça, c'est pas naturel, on l'apprend. Alors, on n'apprend pas à faire des bêtises, mais on apprend à penser que, justement, les garçons sont plus prédisposés à faire des bêtises que les filles. Et qu'est-ce qu'on peut dire du discours des musiciens ou du public? On est ensemble, on partage, on va chercher des choses au fond de soi, le respect des autres, la joie, etc. Bon, c'est sûr, on peut en rire. Vous avez compris, j'utilise la fantaisie, parce qu'il y a une différence entre rigoler, se moquer des gens. L'idée, bien évidemment, j'espère que vous l'aurez compris, peut-être parce que j'ai une bonne tête, c'est que l'idée, c'est pas de se moquer des gens, surtout pas. C'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui les motive, quels sont leurs intérêts, et de comprendre aussi, parce que ça c'est quelque chose de nouveau, et qui est apparu avec la sociologie et l'anthropologie, et peut-être la psychanalyse, c'est de dire que la croyance est rationnelle. Oui, quand on croit en quelque chose, on s'investit, on agit. La croyance est quelque chose de très concret, ce n'est pas immatériel la croyance. Ça passe par des actions très concrètes, des agissements. Mais arrêtons-nous un peu sur les mots, j'ai essayé de vous le faire. Les tons, les tonalités, pour rendre compte du sens et de la signification. Peut-être on ne fait plus attention aux mots, ou à ce qui se joue dans des paroles parlées aujourd'hui. Trop de mots dans notre société, on n'entend plus. Donc il faut être suffisamment fou pour tout prendre au sérieux, parce que quand on arrive à tout prendre au sérieux, on peut espérer essayer de comprendre la société, essayer de comprendre ce qu'elle devient, d'où on vient et où on va. Ici, dans les extraits de témoignages, de confidences, je l'ai dit un petit peu avant, les choses de l'âme sont en réalité des choses du corps. Alors ça ne plairait pas aux religieux, ça ne plairait pas non plus à certains philosophes, ça ne plairait pas non plus à celui qui dit « Mais j'aime, tu ne pourras pas me sortir des choses du fond de moi, je suis bien heureusement solitaire, je suis unique. » Donc on pourrait reprendre tout ce que j'ai dit avant, ce sont des témoignages en fait. Et même pire que ça, enfin, pire que ça, mieux que ça, c'est écrit. Quand c'est écrit, il y a une responsabilité quand même. Alors que là, je ne fais que parler, j'ai une responsabilité, bien sûr. Donc, dans les extraits de témoignages, c'est ce que je disais plus haut, les choses de l'âme sont en réalité des choses du corps. C'est une proposition. Les sentiments et les confidences sont fondés en nature. Fondés en nature, c'est d'ailleurs j'aime. Tu n'as pas à me dire ce que je dois aimer ou ce que je ne dois pas aimer. Mais comment marchent les goûts? Qu'est-ce qui construit les goûts? Et ce qui doit construire les goûts. Dans ma pratique personnelle, de compositeur, de musicien, eh bien, je me suis dit, mais pourquoi suis-je intéressé plus par une chose que par une autre? Pourquoi tout n'est-il pas intéressant pour nous qu'on le regarde assez longtemps, Flaubert? Alors, voilà une phrase intéressante. Une phrase même intéressante. C'est un jugement de valeur, je vais dire qu'elle est importante. Comme ça, tout le monde sera d'accord. Qu'est-ce qui est important dans cette phrase? C'est qu'on peut tout aimer. Oui, on peut tout aimer à condition qu'on comprenne. Alors, c'est la compréhension comme amour, bien sûr. Alors, c'est pas l'amour fou non plus. Mais c'est que si on arrive à comprendre un petit peu tout le monde, ça veut dire qu'on arrive à placer tout le monde. Placer tout le monde quelque part. Et si une personne n'arrive pas à savoir où elle est, eh bien, on peut peut-être l'aider à se placer. Hein, quand on dit, ma grand-mère, elle me disait, oh, quand j'étais petit, j'ai été placé. On l'a placé chez chacun quand j'étais petit. Ou jeune. Non, on l'a placé. Donc, ça veut dire quoi? Placer quelqu'un socialement. Les stratégies matrimoniales aussi. Placer, on va placer sa fille, on va placer son surtout dans les sociétés, dans les catégories sociales supérieures, comme les grands bourgeois ou l'aristocratie. On place les enfants. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Sinon, c'est une déchéance sociale. Bon. Moi, personnellement, la déchéance sociale, je m'en fous. À partir du moment où j'ai une connaissance. Mais d'autres préfèrent plutôt. Enfin, d'autres préfèrent. D'autres, on a appris d'autres choses à d'autres. Parce que, effectivement, pour pratiquer certains instruments de la sociologie qui libèrent Il faut d'abord croire, enfin penser que la liberté est illusoire, d'abord la liberté est illusoire, et que pour avoir une petite once de liberté, il faut peut-être travailler à la conquérir. C'est une conquête. Et particulièrement dans l'art, ou dans la littérature, ou dans la philosophie, c'est une conquête collective. Elle ne se fait pas seule, elle se fait ensemble. Et elle est cumulative. C'est-à-dire qu'on va utiliser ce qui s'est fait avant pour prendre position, pour ou contre, et se mettre dans une forme de continuité. Bon, je l'ai dit sans lire, donc ok. Tous les qualificatifs, les illustrations, les témoignages qui ont été cités à l'instant, on les retrouve dans toutes les descriptions de l'état de grâce. Face à une œuvre, poésie, tableau, musique, littérature, qui est à la fois, tout à la fois énergie vitale, c'est moi, j'aime, et chose de l'âme. Alors, est-ce que la science désenchante? Et si jamais la science désenchante, est-ce qu'elle empêche le plaisir? C'est une vraie question. Est-ce que Merlin l'Enchanteur, qui a les formules magiques, est-ce qu'il est magicien puisqu'il a les formules magiques? Ben non. Parce que quand on a les formules magiques, on n'est plus magicien. Ça vous paraît évident. Peut-être, ou en tout cas, ça n'était pas jusqu'à présent. Maintenant, est-ce que ça peut le devenir? C'est que quelqu'un qui produit la magie n'est pas magicien, pour lui-même, puisqu'il a les formules magiques. Donc il est tout à fait possible de désenchanter, tout en gardant le plaisir. Et c'est une forme d'autocensure que de croire que parce que je vais désenchanter, je vais enlever le plaisir. Parce que le plaisir, ça peut se travailler, ça peut se conquérir aussi, ça peut changer. On peut avoir les plaisirs qu'on a quand on est enfant, qui sont pas les mêmes plaisirs qu'on a quand on est jeune, qui sont peut-être pas les mêmes plaisirs quand on est plus âgé. Ou alors ce sont les mêmes plaisirs mais qui évoluent, qui changent, qui se développent. À savoir, si l'art, lui, en tant qu'objet, il est réalisé dans les objets que nous sommes, sujet-objet, c'est vrai que je manipule ça assez facilement. Je suis désolé, sujet-objet, ça va pour tout le monde? Un peu, sujet, oui. Bon, laissez-nous porter. Là, c'est un objet qui est réalisé en nous. Vous avez vu, par les sentiments, par le fait de dire j'aime, j'aime pas, tout ça magnifique, etc. Mais bon, on a des goûts, des propriétés, des pratiques. Dans les pratiques, je préfère aller à la piscine, je préfère aller jouer au tennis, que jouer au foot. Moi, c'est pas trop pour vous, les sports collectifs, c'est pas trop pour moi, je préfère le sport individuel. Bon, ça là. Bon, c'est réalisé en nous. Bien. Pourquoi on ne peut pas toucher les goûts? Parce que c'est un bien rare et intime. Et quelque part, heureusement que nous avons des goûts, parce que ça établit un ordre au monde. Si nous n'avions pas de goûts, ça serait un peu difficile. Eh bien, il s'avère qu'à force de travailler sur mes goûts, j'en ai plus. C'est terrible. Je vais dire, oh, le pauvre. Oui, je le vois comme ça, j'ai l'air en bonne santé encore, ça va. Et ces goûts-là, si je les fais travailler, si je les travaille, ça veut dire que, comme Flaubert le proposait, vivre toutes les vies. Comment est-il possible, en ne vivant pas ce que tu vis, que je comprenne ce que tu vis en n'étant pas qui tu es? C'est la proposition de Flaubert, vivre toutes les vies. Vivre toutes les vies, c'est être capable de décrire une femme dans Madame Bovary comme si c'était une femme, alors que Flaubert n'est pas une femme, vous le savez, non? Enfin, pas retrouver son corps. Son âme. Je m'égare. Donc, vivre toutes les vies, c'est être capable de comprendre tous les goûts qui existent. C'est être capable de faire un travail de fiction. Faire un travail de fiction, d'imaginer quelqu'un. C'est le fameux roman réaliste, c'est le travail de Balzac, initié par Balzac, puis par la suite Flaubert, Baudelaire d'une autre façon, et Maupassant, etc., en passant par Proust, en passant par Virginia Woolf, Vive les femmes, et en passant aussi par Faulkner, ce qu'on appelle le work in progress, ou en tout cas la littérature qui essaye d'inscrire dans le même mouvement de son écriture une réalité sociale. Donc lire aussi ces auteurs, c'est être... Oui, il n'y a pas que les instruments de la sociologie qui peuvent libérer, il y a aussi les instruments de la littérature. Mais quels instruments de la littérature? Voilà. Parce que c'est une littérature engagée, une littérature qui parle de l'individu socialisé, ou est-ce que c'est une littérature qui parle, comme en général les chansons françaises d'aujourd'hui, de soi, de la psychologie, du rapport que j'ai avec ma femme, du rapport, etc. Voilà. Donc les objets, à chaque fois qu'ils sont manipulés par l'art, sont-ils des objets collectifs, sont-ils des objets personnels ? Alors, on pourrait dire que l'art et la science ont deux cultures différentes. Est-ce qu'elles ont, toutes les deux, des histoires différentes ? On se retrouve, comme avec beaucoup de mondes séparés, malheureusement, dans une impossibilité de communiquer. Un petit peu comme le dialogue impossible entre la philosophie et l'économie, par exemple. Que faire ? En même temps, c'est une bataille multiséculaire, une bataille historique, entre le sujet, la vision sur le sujet et la vision sur l'objet. Vous la connaissez un peu, elle a été cristallisée au XXe siècle, cette lutte entre le sujet et l'objet. C'est la fameuse lutte entre Sartre et Lévi-Strauss, puisque Sartre défendait une liberté absolue, et Lévi-Strauss a enlevé le sujet dans l'objet, c'est-à-dire nous sommes le produit de structures qui nous échappent, de structures inconscientes, qui nous conditionnent et qui font que nous sommes ce que nous sommes. Donc elle a été cristallisée, cette lutte au XXe siècle entre ces deux individus. Bon, il y en a eu d'autres, hein, mais c'est les plus connus, on va dire. Alors, en gros, comment on peut faire marcher ce qui est de l'ordre de l'expérience, c'est-à-dire le vécu, et la théorie, ce qui est de l'ordre de l'abstraction, ou comme je disais, de la fiction, c'est-à-dire s'imaginer qui peut être l'autre en le mettant en scène, en le mettant en jeu. Qu'est-ce que je soulève ici ? Je soulève des mondes, je soulève des gens dans ces mondes, qui ne communiquent pas forcément, qui ne se fréquentent pas, et je dirais plus précisément qui n'ont pas l'expérience de communiquer. Communiquer, faire un acte de communication, il y en a de plusieurs façons. Soit pour la fête, soit pour la danse. Des actes de communication sont très importants pour se fréquenter et se comprendre. Mais chaque manière de comprendre ou chaque manière de fréquenter est aussi un investissement affectif. Et rencontrer quelqu'un, donner une pièce dans la rue à quelqu'un, ou discuter avec lui, c'est un investissement affectif, ça nous coûte beaucoup, on n'a plus le temps. Enfin, en tout cas, le temps, ça, quel archaïsme, le temps. L'espace, c'est beaucoup plus important quand même. Alors l'espace personnel, bien sûr, l'espace qu'on peut avoir dans la tête, mais l'espace aussi de l'imagination, de la fantaisie, qui est une forme d'espace. Disons que l'espace n'a pas besoin du temps pour exister, en revanche, le temps a besoin d'espace. Tiens donc. En même temps, je vous parle d'espace alors que je suis musicien, alors que je devrais plutôt vous parler du temps. Eh bien non, c'est plutôt l'espace qui m'intéresse, parce que l'espace, on revient à ce que je disais sur les points de vue, sur la fiction d'un individu, c'est qu'on peut penser l'espace, qui est d'abord a été pensé l'espace céleste, avec Copernic, Galilée, Kepler, Newton, à un espace social, c'est-à-dire nous-mêmes, nous sommes dans des espaces sociaux. Et comme dirait Pascal, je suis un point compris dans un ensemble et je me comprends autant que l'ensemble me comprend. Donc la notion de compréhension n'est pas liée à une notion de compréhension religieuse, mais liée à une notion spatiale. C'est-à-dire, je suis un point dans un ensemble. Donc rajouter pour mieux comprendre peut-être un point, entre parenthèses, de vue, j'ai un point de vue. C'est-à-dire, c'est un point à partir duquel nous avons une vision. C'est le point de vue. Eh bien, je suis un point compris dans un ensemble avec d'autres points, et l'ensemble me comprend tant que je le comprends, c'est-à-dire je suis content comme un enfant qui essaye de plaire à ses parents et qui donne toujours ce qu'il demande, voilà, parce que pour être compris dans un ensemble, c'est-à-dire par exemple l'ensemble réduit des parents. Et ça se voit aussi à l'école, hein. Les filles sont un peu plus dociles, c'est statistique, attention, je ne veux pas créer de polémique, les filles sont plus dociles que les garçons, mais dociles ne veut pas dire qu'elles se laissent faire. Elles ont été produites, en quelque sorte, à répondre à une attente des adultes. Donc c'est pour ça qu'elles vont plutôt dans ce sens. Voilà, je soulève beaucoup de choses. Tout ça, je n'importe pas. C'est-à-dire, c'est dans des livres. Mais les livres ou pas. Alors, dans les livres de la littérature originale, vous, par exemple, c'est ça, elle parle très bien du rapport entre hommes et femmes de manière très, très pointue et très réaliste. Et sublimée à la fois, parce que décrire une relation sociale, croyez-moi, c'est pas facile. Décrire en termes littéraires une relation sociale. sans dire ce qui est en train de se passer, en plus. C'est-à-dire en laissant deviner ce qui se passe dans la lecture. Il faut beaucoup d'imagination. Puis être habitué à lire. Les jeunes ne lisent plus, qu'est-ce que vous voulez? C'est terrible. Ben, il faut leur donner le goût de la lecture. C'est pas facile. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est pas facile. Mais en même temps, ces jeunes sont bien dans une société. Si ces jeunes étaient nés avant, ils auraient été comme. Soit comme moi, soit comme vous, si vous étiez plus âgé. Parce que si j'étais à la place de vous, madame, eh bien je ferais la même chose. Vous savez pourquoi? Parce que je serais à votre place. Donc quand on dit si j'étais à ta place, je ferais. Mais non, si tu es à ta place, tu fais la même chose si tu étais à sa place. D'où l'intérêt de comprendre sa place. Vous saisissez? C'est ça, cette notion d'espace, cette notion de compréhension. En même temps, ça a l'air très idéaliste, hein. Mais je le pratique. Alors, je prendrai l'exemple pour rigoler d'une joute verbale entre Gainsbourg et Béa sur le plateau d'Apostrophe à propos de la chanson. Pour montrer les mondes, je reviens à la musique, l'état d'âme, etc. Où nous avons un Gainsbourg qui va parler de la chanson en disant que c'est un art mineur, et nous avons Béa, et donc. Béart qui dit, mais non, la chanson c'est un art majeur. Et Gainsbourg propose, tout en étant musicien, autodérision ou pas, provocation ou pas, il est musicien, en tout cas il est chanteur, compositeur de chansons, et il dit que la chanson est un art mineur. En revanche, il va l'opposer à un art majeur, qui est la peinture. Eh bien, au lieu de vous montrer la vidéo, je vous propose de vous la jouer. En 1986. Apostrophe. Garapillo. Disons que votre première ambition, votre premier talent, c'était la peinture. À 13 ans, j'ai commencé à peinture. Jusqu'à 30 ans. Alors, quel était le genre de peinture que faisait Gainsbourg? Et là en face, il dit que faisait Gainsbourg. Ça, j'adore. Vous comprenez? Déjà, on commence à analyser un peu le truc. Alors, quel genre? C'est-à-dire la condescendance. Parce que c'est ça que ça signifie. C'est comme quand dans le docteur, il vous dit, quand il nous voit arriver, alors comment va-t-il aujourd'hui? Comment va-t-il? Je suis là, ça te dérange pas d'avoir un lexique, ça serait bien. Hein. Moi, mon kiné, parce que je me suis fait une rupture du tendon d'Achille, donc mon kiné, il me dit, alors comment elle va aujourd'hui? Arrêtez avec votre lexique personnel, répondez-leur, n'hésitez pas. Non, mais en même temps, il s'occupe de nous, parce que vous voyez, on a toujours envie d'être plein, c'est normal, on a envie qu'on s'occupe de nous. Ben, oui, mais répondez comme ça, d'ailleurs, qu'on va s'occuper de vous complètement différemment. Alors, excusez-moi. Alors, quel était le genre de peinture que faisait Gainsbourg ou de dessin? C'était figuratif. Je suis passé au cubisme, au surréalisme, et puis bon. Ah ben, dis-donc, en très peu d'années, tout ça, alors, tout le monde rigole sur le plateau. Et là, Gainsbourg, il fait un câble. Et qu'est-ce qu'il y a de drôle, les blaireaux? Voilà. Alors, les blaireaux. Les blaireaux, je veux dire qui c'est clair. D'ailleurs, ça s'est passé pendant 15 minutes, je crois, exactement. Et les autres n'ont pas réagi. Donc, qui n'a pas réagi? J'ai le nom. Comme Coluche. J'ai le nom. Louis Chédid, le père de Mathieu Chédid. Pauvre Mathieu. Pierre Perret. Ah, c'est dommage. Là, je suis un peu déçu. Hein. Pierre Perret, quand même, j'aurais bien voulu qu'il participe. Mais en quelque sorte, Pierre Perret, ils sont fous. Art mineur, art majeur, mais lui, il passe complètement au travers. Pierre Perret. Bisous. Anne Sylvestre. Oh, c'est un peu pareil, ils sont fous, Anne Sylvestre. Elle est un peu comme Pierre Perret. Maxime Le Forestier. Ah, il avait dû raser sa barbe. Remarque en 86, peut-être bien. Donc voilà, ils disent rien. Remarquez, ils se régalent peut-être. Hein. Ils attendent qu'une seule chose, c'est que Gainsbourg envoie quelque chose. Hein. Bon. Alors, les blaireaux. Donc, il y a des rires. Bon, en même temps, les blaireaux, ça peut être le public aussi, parce qu'il y a un petit peu de public, quoi. Bon. Donc, en très peu d'années, tout ça, et qu'est-ce qu'il y a de drôle, les blaireaux, là? Et puis, vos souris. Et, Gainsbourg enchaîne. Ça va pas la tête? Initiez-vous à la peinture. Voilà, c'est-à-dire, initiez-vous, quoi, arrêtez de rigoler, initiez-vous à la peinture. Ensuite, je suis passé... ça s'appelle une initiation. Un art majeur demande une initiation. Pas un art mineur. Et il montre à la partition, comme pour désigner le contenu de la chanson. comme ce que les connards, les conneries que nous faisons. Donc il se critique lui-même et il critique aussi en même temps. Il critique, je dirais même qu'il va plus loin, il juge très sévèrement, pas forcément une critique, il juge très sévèrement les compositeurs de chansons. Mais pour le surréalisme qui nous a influencé, et puis Béat qui se réveille, ça n'a rien de mineur, les chansons. Et Gainsbourg, mais si mon petit gars, c'est aussi majeur, mais si mon petit gars, qu'est-ce que tu racontes? Gainsbourg, mais qu'est-ce qu'il est, le connard hein? Béat, mais non, c'est pas le connard qui te parle, c'est Béat. Et puis Gainsbourg, en souriant un peu, oui, j'ai bien compris. Mais... Béat, mais pourquoi c'est mineur une chanson? Ça rencontre les gens. Ah, d'accord. Donc un art majeur, c'est un art qui rencontre les gens. Mais je ne sais pas si la peinture ou la fréquentation des musées pour aller voir la peinture, elle touche vraiment beaucoup de gens. Parce que la fréquentation des musées, on ne peut pas dire que ce soit quantitativement significatif. Gainsbourg, oui, c'est mineur, c'est mineur. Béat, mais non, il n'y a rien de mineur. Si, et là il s'énerve. Tape presque sur le piano. Dans la chanson, tu n'as pas besoin d'initiation. Tu n'as pas besoin d'initiation pour la chanson. Tu as besoin d'initiation pour la peinture, pour les arts majeurs, l'architecture, la musique classique. Alors, c'est un peu la musique classique. Ah, quand même, la musique classique. Donc, quand même, il participe à créer un classement légitime, lui aussi. Un classement légitime, c'est-à-dire la chanson, c'est un art mineur. En revanche, la musique classique, ah bah oui, alors là, c'est un art majeur. Donc, la musique classique. Et la littérature, et la poésie. Et il insiste, et la poésie, s'il te plaît. Et Béat, mais non, la chanson, tu l'as initiée dès l'enfance. Gainsbourg, nous ne faisons pas de poésie. Bon. Béat, il n'y a pas d'art mineur. Ce n'est pas la peine de faire de la chanson en disant que c'est mineur. Sinon, je ne serais pas là. Est-ce qu'il vient trop doucement et tu fais de l'art mineur, mon petit gars? Et là, il dit, Béat, le pauvre, là, il commence à se perdre. Enfin, j'ai l'impression, il commence à se perdre parce que là, ils font un peu n'importe quoi, ils s'engueulent au lieu de discuter. Donc, Béat, il dit, tout est important, même la cuisine, c'est majeur. Bon, c'est un relativisme un peu creux quand même. Tout est important, oui, d'accord. Alors, il n'a pas continué pour qu'on le regarde, si on le regarde assez longtemps, comme Colbert. Mais je pense que ce n'était pas le même sens. Tout est important, même la cuisine, c'est majeur. Donc, voilà une forme de relativisme quand même. Tout est important. Bon, d'accord, oui, si on veut. Et Gainsbourg, il dit, tu prends du pognon au salaud de pauvre. Je prends pas de pognon. Et il dit, comme moi. C'est-à-dire qu'il avoue. Béat, tu en prends beaucoup plus. Oui, c'est ce que j'ai dit, comme moi. Alors, ça y est, Pivot, il intervient, il réagit, quoi. Il dit, sans Gainsbourg, mais toutes vos chansons, vous considérez vraiment que ce sont des choses mineures? Ton calme de Gainsbourg. Absolument. Pivot qui ne croit toujours pas. Pivot, il fait penser à un petit garçon, des fois. C'est vrai? Ben, sauf certaines qui ont frôlé, qui ont approché Rimbaud. On pense à quoi? Enfin, il pense à quoi? Élodie Nelson, particulièrement. Donc, Béat, il dit, le Pierrot, il est à sa table, là-bas. Et toi, tu es l'autre, le père Gainsbourg. Et puis, Béat, qui dit, non, mais c'est idiot ce que vous faites là. Et puis, Gainsbourg, qui avait compris qu'on rigolait, enfin, lui, en tout cas, il dit, c'est pas grave. Bon, je sens qu'entre vous, il y a un petit contentieux, là, Béat. Ben oui. Et Gainsbourg, mais non, absolument pas, je le connais pas. Bref. Qu'est-ce qu'il dit? Il essaye d'argumenter. Il est devant son piano, il dit, voilà, quand on compose à la guitare, ça donne ça. Donc il joue sur le piano des accords de guitare. Mais ça, c'est de l'apparence. Et l'autre, il dit, et souvent, c'est... Alors, je ne dis pas sa phrase, et il dit, en jouant, bien sûr, il dit, ta gueule. Ça, c'est la meilleure école, le piano bar. Parce qu'il montre ensuite le piano bar, c'est-à-dire le jeu sur le piano. Et on pourrait dire que Gainsbourg, effectivement, en composant avec le piano, il se met dans la situation de ce qu'il appelle la musique classique comme un art majeur, c'est-à-dire le piano. Le piano forte, l'apparition du piano forte au XIXe siècle, ça fait partie de suite de la musique classique. C'est rentré directement dans la musique classique, et particulièrement la musique symphonique. Donc qu'est-ce qui est en train de se jouer sur le plateau entre Béat et Gainsbourg? qu'est-ce qui peut fonder un classement entre art mineur et art majeur? Eh bien, le sociologue, c'est vrai qu'il peut aider l'artiste à y voir un petit peu plus clair. Il peut nous aider à dévoiler ce qui se joue, par exemple dans cette interaction entre deux différents sujets, mais aussi ce qui se joue dans les choses et dans les objets. Parce que Gainsbourg, en défendant l'art majeur, et Béard, en défendant un autre type d'art majeur, c'est-à-dire quelque part un art majeur relativisé, eh bien, ce sont des objets qui défendent. Les sujets défendent des objets. Gainsbourg défend la peinture comme un art majeur, il l'oppose à la chanson qu'il considère comme un art mineur, Béard n'est pas d'accord, la chanson est un art majeur, et comme je vous disais tout à l'heure, son propos tend même vers un relativisme un peu creux, puisqu'il dit que tout est important, même la cuisine c'est majeur. Donc lorsque le sujet parle, ou lorsque je parle, ce n'est pas lui seulement qui parle, mais l'objet qui le fait parler. Moi c'est un objet qui me fait parler. C'est-à-dire l'objet de vous communiquer ce que je sais, ou en tout cas ce que je pense savoir, et ce que j'ai envie de vous faire partager. Donc c'est un objet. Cet objet, c'est une croyance. Même si ça vous semble bizarre qu'une croyance puisse être un objet, je vous fais la proposition. D'ailleurs, ça fait partie aussi des propositions qui sont faites, non pas seulement par la sociologie, mais aussi par les philosophies des sciences, comme Bachelard, Cassirer, Canguilhem. Ce sont des philosophes des sciences aussi qui se sont battus pour essayer de montrer une forme de rationalité sans enlever l'imagination et la poésie, donc sans enlever le plaisir. L'objet, c'est quoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la position, c'est mon point de vue, c'est mon goût, mon classement, art majeur, art mineur, noble, ignoble, légitime, illégitime, rive droite, rive gauche, bohème, bourgeois, art pur, monde des affaires. Nous pratiquons des systèmes d'opposition régulièrement dans nos classements. Mais comment ces hiérarchisations d'objets se mettent-elles en place historiquement pour ensuite se mettre en place dans les sujets que nous sommes? Un exemple. Dans le cas de la culture telle que nous la connaissons aujourd'hui, ou du monde de production culturelle telle que nous la connaissons aujourd'hui, il faut se plonger dans le 19e siècle. D'abord, il y a le champ du pouvoir, le monde de l'argent, qui exerce ses principes particulièrement sous Napoléon III, qui exerce ses principes, ses conditions et ses pressions sur l'univers artistique et intellectuel. Je vous propose la lecture d'un petit passage, extrait des règles de l'art de Pierre Bourdieu, une nouvelle lecture de Flaubert, et particulièrement de l'éducation sentimentale. Je vous lis ça. Les goûts des parvenus qui sont installés au pouvoir se portent vers le roman, dans ses formes les plus faciles, comme les feuilletons, qui s'arrachent à la cour et dans le ministère, et qui donnent lieu à des entreprises d'édition lucrative. Au contraire, la poésie est encore, donc roman, poésie, opposition, la poésie, donc voilà un classement qui est fait par les sphères du pouvoir. Au contraire, la poésie, encore associée aux grandes batailles romantiques, à la bohème et à l'engagement en faveur des défavorisés, fait l'objet d'une politique délibérément hostile, notamment de la part du ministère d'État, comme en témoignent par exemple les procès intentés aux poètes ou les persécutions contre les éditeurs tels que Boulay-Malassis, qui avait publié toute l'avant-garde poétique, notamment Baudelaire, Bandit, Gautier, Le Comte de Lille, et qui fut accusé à la faillite et à la prison pour dette. Donc ça vous dit quoi le 19e siècle sur Baudelaire et Flaubert? Mais condamnation des fleurs du mal, ça rigole pas. Hein. Condamnation des fleurs du mal, condamnation de Madame Bovary. Je vous rappelle. Pardon? Oui. Des années 60. Enfin, sous Napoléon III. Napoléon III, c'est 52-71. Enfin, jusqu'à. Voilà. Donc, dans les années 60. Flaubert, lui, a choisi le roman, vous le savez. Ça peut sembler bizarre qu'il ait choisi le roman, alors que j'étais en train de dire roman, c'est les feuilletons, on se les arrache, édition lucrative, etc. Donc, lui, Flaubert, a choisi d'écrire des romans. Et en même temps, en choisissant d'écrire des romans, il s'exposait à participer du statut d'infériorité associé à l'appartenance à un genre mineur. ce genre mineur, c'est le roman. Il existe donc des classements à l'intérieur de chaque univers social. Je vous l'ai dit tout à l'heure, théâtre rive droite ou théâtre rive gauche, par exemple, feuilleton roman, théâtre bourgeois, vaudeville. Bref, pour essayer de faire progresser une forme de connaissance, y compris sur nous-mêmes, ou y compris sur l'art, ou moi-même en tant que musicien, je dois faire aussi progresser la connaissance de la liberté. Pour faire progresser la connaissance de la liberté, il faut essayer de travailler sur l'histoire sociale des choses, des conditions historiques de leur genèse, et en faisant ça, c'est vrai qu'on en apprend beaucoup sur soi. Si on est dans un monde en crise, ce n'est pas seulement, et je dis bien, ce n'est pas seulement en faisant une psychanalyse qu'on peut espérer se comprendre, mais c'est aussi en étudiant le monde dans lequel nous sommes pour savoir ce qu'il nous reste à faire. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce qu'on doit faire, en gros. Eh bien, après, ça permettrait peut-être aux artistes d'être moins immatures en croyant que ça suffit d'être artiste ou de jouer de la guitare ou de faire autre chose pour être du côté de la liberté. Oh là là, c'est bien plus complexe que ça, enfin, non, pas complexe, mais c'est bien autre chose que ça. Il faut essayer de changer son point de vue pour essayer de vivre toutes les vies, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, essayer de convertir son regard, mais ce n'est pas facile. Et je dis bien convertir son regard, c'est pas se convertir à une nouvelle religion ou quoi que ce soit. Le regard, c'est important. N'oubliez pas qu'il n'y a pas plus objectif que l'œil. L'œil est classant. Quand je ferme les yeux et que j'écoute, je ne peux pas classer les mêmes choses que si je les voyais. Donc je classe d'emblée, boum, je classe. C'est par exemple les jeunes filles qui se baladent dans la rue et qui vont critiquer ou juger d'autres manières de s'habiller d'autres jeunes filles, par exemple. L'œil est classant. L'œil est terrible, il fait partie de nos préjugés. Donc convertir ce regard, si c'est possible. C'est vrai que c'est moins facile de convertir son regard, en tout cas pour quelqu'un qui n'en voit pas l'intérêt. Parce qu'on a l'impression, comme le désenchantement, que parce qu'on va convertir son regard et comprendre l'autre, on va perdre son identité. Mais certainement pas. Au contraire, c'est renforcer une forme d'identité. Et particulièrement quand on est artiste. Pour moi, l'artiste et l'intellectuel doivent être au même niveau, doivent travailler ensemble, main dans la main. Comme dirait encore Bourdieu dans le même livre, pour un corporatiste de l'universel. Qu'est-ce qui pourra opposer cette mondialisation dont tout le monde se plaint, c'est une forme d'universel. C'est l'universel qui pourra combattre la mondialisation. Alors pas l'universel dans le sens Troisième République où je vais coloniser d'autres mondes. Puis d'ailleurs, on n'a même pas besoin d'être dans la Troisième République pour voir la colonisation. Il suffit de faire venir des filmés et de les faire jouer au théâtre de la Villette et de sortir de la forêt pour voir un néo-colonialisme culturel. Bon, les musiques du monde, ces fameuses musiques du monde. En général, les musiques du monde, ce sont des musiques où on ne sait pas où mettre les autres. C'est pour ça qu'on les appelle musiques du monde. C'est-à-dire des autres. Bon. Les autres, c'est les musiques, là, c'est le rock, c'est le jazz, etc. Ah oui, vous faites des musiques du monde. Ah, il y a de l'écho. Donc, vouloir comprendre est une énergie qui va se heurter au champ de force des objets. Donc à l'histoire des objets, je suis musicien, je m'intéresse à telle forme de musique, je fais tel style de musique, et bien, comme je suis musicien, ben, je ne suis pas programmateur. Allô, bonjour, c'est Richard, vous pensez quoi? Ça va? Ouais, j'ai pas eu le temps d'écouter ton disque. Déjà, ça commence comme ça. Ou alors, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Alors, moi qui travaille un peu sur les goûts, sur la manière aussi, c'est que je suis capable de comprendre le programmateur qui ne me comprend pas. Mais lui, il n'est pas capable de comprendre que je puisse le comprendre. Bref, c'est un peu délicat, donc il faut rester humble. C'est pas toujours évident. Donc, je me bats contre le narcissisme. Donc, que ça ne nous empêche pas d'avoir de l'ambition, parce qu'on pourrait avoir de l'ambition. Cette ambition, c'est très important. L'ambition, c'est pas forcément pour faire des choses personnelles. C'est aussi pour faire des choses pour toi et les autres. Servir à quelque chose. Je m'égare. Donc, se heurter au champ de force des objets, à l'histoire de ces objets, comme je disais, mais pas que l'histoire de ces objets, parce que ces objets n'existeraient pas s'il n'y avait pas les gens qui les défendaient. Vous comprenez bien. Un tambour, par exemple, il est là, le tambour. Mais vas-y, joue. Ben, qu'est-ce que tu fais?
Un objet, il ne peut pas le jouer, un objet ne peut pas jouer si on ne le joue pas. Vous comprenez? Ça me semble peut-être évident. Mais un objet, une idée que vous avez, vous êtes sûr qu'une idée que vous avez, d'autres peuvent l'avoir. Être propriétaire, par exemple. Non, enfin, c'est sûr. Enfin, tout le monde veut. C'est normal. Mais en même temps, vous avez peut-être des idées sur la philosophie. Vous avez peut-être, eh bien, vous êtes sûr que vous pourrez le trouver. Sous forme d'article, ou sous forme de. C'est peut-être pour ça que vous êtes là aussi. C'est que vous êtes intéressé par la connaissance. Je sais en même temps que en m'adressant à vous, même si je ne vous connais pas, vous êtes à l'université populaire. Bon, mais j'imagine bien que si vous êtes à l'université populaire, alors soit c'est pour casser du sucre sur les intervenants, soit c'est pour découvrir des gens et des idées, donc des gens, des idées, donc des objets. Alors je suis un objet, je n'ai pas peur d'être un objet. Et pourtant je ne suis pas une femme. Oh. Ne prenez pas ça pour une arrogance, c'est juste une forme de fantaisie. Ça ne veut pas dire qu'au fond de moi, je ne boue pas et que j'ai pas mal au ventre. En prenant le risque. Ah, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Vous avez remarqué quand même, je suis debout devant vous, pour justement que ce soit un petit peu dynamique. Bref. Alors, j'en suis où? Au niveau du temps. Oh, ben ça va. Je m'attendais à pire. Je m'améliore. Alors. Ah ouais, la phrase de Marx. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'histoire. J'adore. Ben oui, parce que, je veux dire, cette énergie qui va sortir au champ de force des objets, et aussi à l'histoire des objets, et à ceux qui les défendent et construisent ces objets, et contribuer à reproduire ces objets aussi. Alors ne vous inquiétez pas, ce monsieur m'avait dit qu'il partirait alors. Hein. Merci. Hein. Il a un train à prendre. Non, il l'a dit. Non, il l'a dit avant. J'ai trouvé ça sympa qu'il le dise. En même temps, on pourrait croire aussi qu'il ose partir, alors que vous, non. Merci en tout cas d'être là. Et comme je dis souvent dans mes concerts, merci de rester. Bon. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'histoire. Et Bourdieu rajoute à cette phrase de Marx et de l'espoir. Oh, écoutez. Donc tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'histoire et de l'espoir. Oh ben, ça lui est gentil. Donc, résistance. Mais pas résistance au sens, pas seulement résistance au sens indignez-vous, syndicalisez-vous, d'ailleurs syndicalisez-vous, n'oubliez pas. Pas tout ça, c'est une résistance à soi-même, c'est une résistance à l'autocensure que nous nous imposons. Nous sommes des gros autocenseurs. Vraiment. Parce que nos intérêts sont un petit peu tyranniques quelquefois. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais nous pratiquons l'autocensure. Des fois, sans nous en rendre compte. Oui. Je reviens à la musique et aux arts. Puisque c'est l'objet, quand même, la place de la musique parmi les arts. Il y a un constat. Un constat qui est terrible. Mais on peut essayer de le comprendre. Parce que, souvent, une étude part avec un constat. Un constat qui ne juge pas. Un constat. Un constat est un fait. Un fait n'est pas une affection, n'a pas d'affection. C'est un fait. Constat. L'artiste musicien de musique classique a moins de rapport explicite avec le politique que les peintres, les écrivains, les caricaturistes, les dessinateurs, etc. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire pour qu'on retrouve des musiciens parmi les artistes ont moins de rapport avec le politique que les autres, nous entendons artistes. Même si on constate des révolutions dans l'univers de la musique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de révolution dans l'univers de la musique, rares sont celles qui ont un rapport avec le politique. Les révolutions musicales sont des révolutions exclusivement internes qui ont un rapport logique avec les principes mathématiques de la longue tradition musicale.
Il y a des révolutions dans la musique, mais ce sont des révolutions internes. C'est-à-dire Schoenberg, par exemple, qui utilise, le langage un peu technique, la neuvième par rapport au romantique qu'il n'avait pas utilisé, eh bien voilà, il va y avoir une révolution. Et si on s'attarde sur la musique, quel genre d'art est-il parmi les arts pour faire ceci, quelque part? C'est-à-dire, impliquer son art politiquement. Ça ne veut pas dire que Berlioz n'était pas impliqué, ça ne veut pas dire que Debussy n'était pas impliqué politiquement. Mais là, je vous parle du rapport de la production avec le politique. Je suis écrivain, j'écris, parce que j'ai un rapport avec le politique, dans mon écriture. C'est vrai que nous sommes loin, avec cette musique, et là je vais beaucoup plus loin, je vais chez les Grecs, nous sommes loin des muses qui vivaient ensemble. Vous vous souvenez, vous avez appris, dans la mythologie grecque, toutes les muses vivaient ensemble. Et si on parle de la musique occidentale, c'est pour ça que j'en viens à la Grèce, quelque part. Max Weber, qui est le père fondateur de la sociologie allemande, mais d'une manière différente de Durkheim, qui est le père fondateur de la sociologie française, Allemagne, France, on est à l'époque de la Troisième République, c'est-à-dire 1880-1890, un peu avant la guerre. Eh bien, il nous dit, et ça c'est pas un relativisme creux, quoi, il nous dit que la musique est le plus irrationnel et le plus rationnel des arts. Bon, ça c'est pas du relativisme. Schopenhauer, par exemple, dit aussi, la musique a un double visage. Le visage de Janus, vous savez, dans la mythologie grecque, Janus, c'est le double visage. Dans la culture européenne, mais aussi dans d'autres cultures savantes, et sous d'autres formes, il existe deux traditions. Première tradition, c'est Pythagore. Les nombres sont les réalités primordiales de l'univers. La nature est nombre. La musique qui est entendue, qui est sentie, n'est en fait que le reflet d'une réalité intellectuelle. Cette réalité, c'est le nombre. Plus tard, on verra cette réalité mise en place sous la forme des mathématiques et de la physique, s'appliquer à l'univers céleste, à la géométrie céleste, c'est-à-dire la géométrie euclidienne appliquée à l'espace céleste. Il faut s'imaginer à cette époque-là, c'est-à-dire au XVIe siècle, même avant, au XVe, qu'en fait, en haut, il n'y avait rien. En fait, c'était les étoiles fixes, c'était au-delà, il n'y avait rien. Bon. Et en fait, le ciel, nous, on dit le ciel, mais en fait, pour eux, c'était les cieux. C'est pas la même chose. Les cieux, c'est-à-dire une réalité religieuse. Donc, il y a une séparation entre le cosmos céleste et le cosmos humain. C'est la séparation grecque. Donc, c'est une vision formelle et mathématique de la musique. Et qui se maintient tout au long de l'histoire de la musique occidentale. À l'époque médiévale, par exemple, on voit la musique aux côtés des mathématiques, de l'arithmétique, de la géométrie, de l'astronomie. Donc art et science, pouf, ensemble. Avec les philosophes mathématiciens et physiciens de l'âge classique, c'est-à-dire à partir du XVIIIe siècle, comme Descartes, XVIIe, on retrouve la musique dans une branche qui est plutôt physico-mathématique. Bon, bref. Il y a donc des profondes affinités entre science et musique. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, c'est une proposition que la musique est l'art préféré des mathématiciens et des physiciens, aujourd'hui, dans les goûts. La musique, c'est quoi? La musique, c'est la figure, c'est le mouvement. Comme la physique. C'est Pascal qui dit ça. Même l'organisation temporelle du rythme, elle est soumise dès les Grecs au calcul. Donc le rythme, on va le calculer, il peut se calculer, c'est un nombre. Donc, il y a un côté rationnel à la musique, qui n'empêche en rien d'ailleurs une grande valeur philosophique et expressive. C'est-à-dire, on la désenchante, vous voyez, on dit qu'elle est mathématique, on dit que c'est le nombre, mais en même temps, ça n'empêche pas d'avoir une valeur expressive de la musique. Très important. On pourrait d'ailleurs le réhabiliter, ils ont eu d'autres idées avant nous, ça serait peut-être intéressant. Mais nous avons aussi de l'autre côté du visage de la musique, de l'autre côté, c'est-à-dire pas du côté pythagoricien et mathématicien, dès l'origine un autre versant, que Weber appelle dionysiaque. On est toujours dans philosophie antique, mais là on est du côté du mythe, parce que Dionysos, on ne sait pas trop s'il existait. Pythagore, en revanche, bon, peut-être un peu moins, enfin un peu plus, on sait qu'il existait. Et cet aspect dionysiaque, Weber se réfère à Nietzsche et à son héritage. L'art fait partie des puissances de la vie de ce monde qui sont de nature irrationnelle ou anti-rationnelle. En quelque part, il va aussi dans le sens des témoignages ou des écrits dont je vous parle tout à l'heure sur le fait de considérer qu'il y a une profondeur de l'âme, etc. Mais non, là il dit irrationnel ou anti-rationnel. C'est pas non plus anti-rationnel, ça ne veut pas dire irrationnel. C'est quoi ce versant? Parce qu'il faut l'argumenter maintenant. Il existe dans toutes les cultures, y compris occidentales. Il suffit d'aller voir dans les campagnes, par exemple. Nous venons tous des sociétés campagnes, n'est-ce pas? Soyez d'accord avec moi, ne les oublions pas. Je ne parle pas des néo-ruraux. Et il existe dans toutes les cultures un rapport intime à la religion, dans toutes les cultures. La musique, comme moyen d'extase, d'exorcisme aussi, ou de magie apotropaïque, alors apotropaïque, ça veut dire qui détourne le danger, qui protège. Les magiciens ont des qualités de chanteurs, les danseurs ont des mouvements qui sont sacrés, donc on a un rapport entre les sons qui ont été expérimentés par la magie. Donc la magie, les sons, on peut utiliser les sons pour guérir. On peut utiliser les sons, on appelle ça l'art-thérapie ou la musicothérapie, ça existe aujourd'hui, ça s'est développé dans les années 70, pas pour rien non plus dans les années 70, on peut soigner avec le son. Donc, pour Weber, ce côté-là, c'est une sphère érotique, la sphère de la musique, on rentre en transe, il y a aussi la notion de rentrer en transe, de s'abandonner dans la danse, dans la magie, mais il y a aussi une sphère esthétique. Donc on a d'un côté la mathématique et la forme, et l'autre, le sentiment et la passion et la transe. Pour Weber, ça c'est important, ce ne sont pas des arguments qui présentent une opposition. C'est pour ça qu'il dit, il y a de l'irrationnel dans le rationnel et du rationnel dans l'irrationnel. Comme l'âge baroque, 16e siècle, 17e, tardif, qui disait par exemple, à l'âge baroque, qui classait les modes, disons que les modes musicaux, parmi les passions, et établissait aussi une correspondance systématique entre les uns et les autres. Passion, mode, ça marche ensemble. Si on veut établir une forme de passion, une passion formelle qui a une certaine forme, on va écrire telle musique. Donc il y a le rapport aussi entre la mélodie et l'harmonie, qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une mélodie avec différentes harmonies. Par contre, une harmonie ne veut pas dire forcément qu'on a une mélodie. Vous voyez ce que c'est l'harmonie et la mélodie? Ça vous va? L'harmonie, c'est une série d'accords. On fait une série d'accords, hein, comme ça. Et la mélodie, c'est ce qui va se balader entre les accords. Et il pose une question, parce qu'il est spécialisé là-dedans, sur la rationalité de l'Europe, particulièrement. Pourquoi la musique harmonique, issue presque partout de la polyphonie populaire, s'est-elle développée en Europe? Il y a des éléments rationnels de la musique, et l'art a été rationalisé, et l'expérimentation de cet art rationalisé est ensuite passée de son terrain d'expérimentation à celui de la science. Et il dit, le savoir empirique des artistes occidentaux, développé sur une base artisanale, a eu une ambition rationaliste, donner à leur art une signification éternelle et se donner à eux-mêmes une valeur sociale en élevant leur art au rang de science. Et de l'autre côté, et je terminerai là-dessus, il y a une autre phrase de Stravinsky qui dit « La musique est impuissante à exprimer quoi que ce soit, mais en même temps elle institue un ordre entre l'homme et le temps. »